première ce soir, la venue de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, pour débattre face à Alain Duhamel. Bonsoir, monsieur Moscovici.
Bonsoir.
Bonsoir, Alain Duhamel.
Bonsoir.
Alain, c'est vrai que le nouveau gouvernement, une fois que le premier ministre sera nommé, qu'on aura un nouveau gouvernement, il va devoir s'atteler à la tâche concernant la dette et le déficit. Alors, la France est-elle condamnée à être dans le rouge, condamnée au déficit?
La France est capable des plus belles prouesses, voire la cathédrale, les Jeux Olympiques. Elle est capable aussi des pires faiblesses. Et c'est évident que les déficits budgétaires le sont depuis longtemps. Ça fait presque un demi-siècle que c'est continu. Mais ça l'était déjà à la fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution. Donc, on connaît bien. Tout le monde le sait, les impôts les plus lourds d'Europe avec le Danemark, les dépenses les plus lourdes d'Europe tout court. On a un déficit qui est presque un record et dont personne ne croit sérieusement qu'il sera résorbé dans les 5 ans qui viennent. Il sera peut-être amélioré, mais sûrement pas résorbé. Alors, bien sûr, on propose d'augmenter les impôts, et comme les Français ont l'esprit civique, ils sont tout à fait d'accord pour qu'on augmente les impôts, à la condition expresse que ça ne les concerne pas, naturellement, et que ce soit donc uniquement sur les grandes entreprises et sur les grandes fortunes. Et puis, tout le monde est pour la baisse des dépenses, à condition que ça ne touche ni l'éducation nationale, ni les retraites, ni la sécurité sociale, ni les hôpitaux,
les policiers,
ni les collectivités locales, ni l'armée, ni la police, etc. Bon, on est ancré dans une culture du déficit. Et je n'ai jamais vu un seul candidat à l'élection présidentielle, même Raymond Barre, qui ose faire de la baisse des déficits publics un sujet de discussion.
C'est vrai ce que vous dites, et c'est pas totalement vrai, parce que Raymond Barre a quand même fait baisser les déficits.
Non, candidat.
Comme candidat sans doute, mais moi j'ai appartenu à deux gouvernements. J'ai appartenu au gouvernement Lionel Jospin de 97 à 2002, et au gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous François Hollande de 2012 à 2014. Et il se trouve que ce sont deux périodes où les déficits ont fortement baissé. Donc les 50 ans sont quand même pas linéaires.
Non,
de 97 à 2002.
C'est vous l'antidote.
De 97 à 2002, je m'en souviens, c'était on a terminé avec 1,5%.
Oui, je
à la
rappelle.
Fin en 2001 quand on lance l'euro, la France et l'Allemagne ont la même dette publique, 58,9%. Nous sommes d'ailleurs en termes commerciaux mieux placés.
Et aujourd'hui
en 2012, j'arrive à Bercy, nous avons 5,2% de déficit. En 2014, je pars, nous sommes à 3,9.
Donc contrairement à une idée reçue, la gauche ne dépense pas plus que la droite.
Non, bien sûr.
Non. Mais Pierre Moscovici fait baisser les déficits, ce qui n'est pas le cas de tous les ministres des Finances
ça,
de la gauche.
Mais d'ailleurs, on a eu un débat, y compris au sein du gouvernement, et François Hollande et moi, nous avions décidé qu'on allait jouer le jeu. Mais c'est pas pour dire la gauche, la droite, c'est pour dire que c'est pas une évolution linéaire. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière. Ces dernières années, je vais pas les dater, sont des années de dérive exceptionnelle des finances publiques. Et notamment.
En particulier depuis le Covid, quand même.
Oui, mais ça s'est poursuivi avec le Covid. C'est ça le problème, c'est que quoi qu'il en coûte Covid, tout le monde est d'accord. Sauver des vies, sauver des entreprises, sauver le système de sécurité sociale, oui. Le quoi qu'il en coûte inflation, moins. Le quoi qu'il en coûte énergie, moins aussi. Parce que, est-ce qu'il est logique que ce soit l'État qui vienne pallier à ces problèmes? Je ne crois pas. C'était pas le cas dans les années 70 où l'inflation était déjà élevée.
Et mais de surcroît, si on se trompe, les Français vont dans la rue dans ce cas-là. Quand il s'agit de sujets comme l'énergie. On l'avait vu à propos
Mais vous savez, aujourd'hui, nous avons une dette publique qui est à 112% du PIB. C'est 17% au-dessus de la moyenne de la zone euro. Nous avons des déficits à 6,1% et l'année 2024...
Quels sont les risques pour les Français? Parce que
je vais y venir.
C'est des chiffres et je ne suis pas sûr que les Français comprennent ce que ça peut provoquer.
Si ils comprennent bien, je pense qu'il y a deux chiffres qu'il faut donner. D'abord, la dérive 2024, on a voté le déficit à 128 milliards d'euros, ça s'exécute à 180. Et deuxième chose, c'est la charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement annuel de la dette. Il était de 25 milliards d'euros en 2021, c'est le budget du logement. Il est de 53 milliards d'euros cette année, c'est le budget de la défense.
Et on sera bientôt
à 70 milliards l'année prochaine, c'est le budget d'éducation nationale ou presque. Il sera à 100 en 2027. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la dette publique, c'est la dépense publique la plus stupide qui soit. Chaque euro qu'on consacre au remboursement de la dette, c'est un euro en moins pour justement l'éducation, la recherche, l'innovation, l'écologie. Et un pays qui est aussi endetté est un pays paralysé. Alors, il y a un problème de crédibilité à l'égard de nos partenaires.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, première chose, moi je ne sais pas qui sera Premier ministre demain ou plus tard. La seule chose que je voudrais rappeler comme président de la Cour des comptes, c'est qu'il ne faut pas oublier cette question de la dette. Ça fait 40 ans que je suis dans la vie publique, comme haut fonctionnaire, comme homme politique. Il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas faire de bonne politique publique sans bonne finance publique. C'est la condition sine qua non. Et je ne voudrais pas que on soit en train d'additionner des choux et des carottes et qu'on reste sur des niveaux de déficit incroyables. Deuxième chose, la loi spéciale qui va être votée, bon, tant mieux.
Ah oui, tous les groupes sont d'accord.
Tant mieux, mais c'est la moindre des choses. On n'aura pas de shutdown, les fonctionnaires seront payés, les prestations sociales seront assurées et les dépenses seront votées.
Mais ensuite, vrai budget qu'on construira en janvier...
Alors, il peut arriver, première chose, personne ne l'évoque, c'est qu'on vive pendant longtemps avec cette loi spéciale. Oui. L'Espagne n'a pas de budget depuis deux ans. Je n'y crois pas.
Non, moi non plus.
Mais ça veut dire qu'il faut faire voter un projet de loi de finances pour 2025.
Hein, en janvier.
À partir de janvier. Et ça peut prendre un certain temps, parce que soit on reprend le même et on le modifie, soit on le change complètement. Et le compteur
plus
repart.
Plus on attend, plus ça se compte.
Alors, disons que celui dernier, il a été censuré, donc ça ne peut pas être le même.
Disons qu'il...
Non, mais de toute façon, on pourrait. Techniquement, ça ne poserait pas de problème. Il n'y a rien d'interdit. Mais ce n'est pas ça qui se produira.
Bah,
un nouveau Premier ministre avec un nouveau ministre des Finances et un nouveau ministre des Comptes Publics. Il va vouloir essayer de mettre sa marque, de démontrer un certain nombre de priorités, d'avoir l'air d'être justement plus vertueux que ses prédécesseurs. Et je lui souhaite beaucoup de courage.
Moi aussi, mais néanmoins, c'est un courage nécessaire. Parce que
en
France, qu'est-ce que nous risquons? Vous posiez la question.
Oui. Pour les Français, pour qu'ils comprennent bien.
On risque d'abord d'avoir cette charge de la dette qui continue d'augmenter, les marges de manœuvre de l'État qui sont réduites à rien, donc les services publics qui finalement s'appauvrissent. On risque un enfoncement de notre économie doucement.
Le ralentissement de la croissance, des investissements, de l'attractivité et l'anticipation, et les chefs d'entreprise et les consommateurs.
Bien sûr.
Qui seront des anticipations négatives.
On est dans une triple incertitude, incertitude économique, incertitude financière, incertitude politique. Et ce que je dis, c'est que le nœud, il est politique. C'est la défiance à l'égard du politique qui fait que, effectivement, les investisseurs diffèrent les investissements, que les consommateurs épargnent alors qu'ils devraient consommer. C'est ce qui explique aussi qu'on ait cette formidable montée de la dette. Et moi, ce que je crains, c'est un pays qui, petit à petit, sort de l'écran. J'ai pas peur de la venue du FMI à Paris. Ça n'arrivera pas. Nous ne sommes pas dans une situation à la grecque.
C'est un lent déclin.
C'est qu'on sort des radars. Aujourd'hui, il y a un chiffre aussi qu'il faut donner, c'est les spreads. Qu'est-ce que c'est le spread? C'est la différence de taux d'intérêt entre la France et ses partenaires.
Alors, avec l'Allemagne.
Oui, mais pas que. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à 70 points à peu près de l'Allemagne, ça peut monter. Nous sommes au-dessus de l'Espagne, nous sommes au-dessus de la Grèce, et l'Italie est juste au-dessus de nous. Moi, au fond, ce que je redoute, c'est un scénario un peu d'italianisation de la France, avec une économie qui a des zones fortes, mais qui, dans l'ensemble, reste stagnante, avec des finances publiques qui sont mauvaises, avec une image qui n'est pas bonne. Et nous sommes un pays important. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Nous sommes membres fondateurs de l'Union européenne. Sans nous, l'Europe ne peut pas avancer. Et ce pays-là, il a besoin d'avoir de la stabilité. Stabilité politique, stabilité financière et fin de l'incertitude économique pour que les agents repartent de l'avant.
Oui, ça fait quand même beaucoup de conditions à la fois.
Si on parle concrètement par rapport au prochain Premier ministre, au prochain gouvernement... Première chose, il faut garder un certain niveau d'ambition. Je ne sais pas si on peut faire 5%, parce que là, pour le coup, ça va être chaud. Mais il faut aller vers 5%.
Vous voulez dire pour 2025 ou 2026?
Pour 2025.
5%, personne n'y croit.
Mais écoutez, le PLF déposé par Michel Barnier était à 5%.
Oui, mais personne n'y croit.
Avec la loi spéciale, on serait à 5,8%.
Non, mais vous, qui êtes premier président de la Cour des comptes, vous n'y croyez pas.
Je pense que c'est très compliqué maintenant, parce que toutes les économies prévues et la fiscalité sera difficile à faire, mais il faut quand même garder un... Premier message, garder un certain niveau d'ambition.
Oui.
Et le deuxième, c'est
enfin
que...
Enfin, excusez-moi, mais c'est une pancarte qu'on agite.
Non, c'est pas une pancarte.
En disant 5%,
Alain Duhamel, ce sont aussi des engagements que nous avons pris à l'égard de Bruxelles. On a envoyé un programme...
Et quel est le risque si on ne les respecte pas?
C'est qu'à un moment donné, nous sommes sous une procédure qu'on appelle déficit excessif. J'étais commissaire européen en charge de ces sujets de 2014 à 2019. Et à un moment donné,
On aura même d'assez grosses amendes.
On peut avoir ça, je n'y crois pas trop.
En théorie.
En revanche, ce qui se passe, c'est que les marchés, pardon d'utiliser ce gros mot, ce sont nos créanciers à un moment donné, ils peuvent nous faire payer un peu plus cher notre dette. C'est que tout coûte plus cher. C'est que finalement, il y a une sorte de boule de neige qui fait qu'on s'appauvrit encore davantage. C'est que la Commission européenne nous condamne, voire nous sanctionne. En effet,
bref,
ça, il faut l'éviter. Bref, quand je dis qu'il faut avoir un certain niveau d'ambition. C'est pas juste.
Bref, ça. Bref, ça veut dire.
Il faut que le chiffre affiché reste important.
Alors, justement. Bref, je vais dire un mot.
Bien sûr. Hein,
bref, ça signifie que, sauf volonté politique forte, avec une stabilité politique suffisante.
Vous me suivez. Ouais.
S'il n'y a pas ces facteurs-là, à ce moment-là, on n'a aucune chance d'atteindre, même puisqu'on dit toujours 2027, on arrive à 3%.
Non, 2029. Pas.
Oui, 2029, personne n'y croit.
Bon, alors,
si, donc, il faut vraiment des conditions politiques, en réalité, beaucoup plus positives que ce qui existe depuis 3 ans, au moins, peut-être plus, mais en tout cas depuis 3 ans.
Mais
La prévision politique ne va pas exactement dans ce sens.
Alors, permettez Pierre Moscovici à l'individuel, puisque tous les deux vous dites... Il faudra du courage politique, prendre les bonnes décisions.
Non, je dis pas du. Attendez, d'un mot. Je ne dis pas du courage. Ça veut dire un héroïsme exceptionnel.
Alors, eh bien, on peut regarder ce qui se passe. On peut prendre un exemple en Amérique du Sud. Javier Milei, qui a été élu en disant moi je vais y aller à la tronçonneuse.
Tout le monde s'est moqué de lui.
Et il y est allé à la tronçonneuse. L'Argentine commence à avoir des résultats. Justement, on va regarder ça avec vous, François Gapillan. Est-ce que le premier bilan du président argentin Milei peut susciter un peu de jalousie chez nous? Bonsoir François.
Bonsoir à tous. Par certains aspects, oui, mais c'est plus complexe que cela, on va le voir ensemble. D'abord, je vous propose d'écouter celui qui, depuis un an, vous le disiez, dirige l'Argentine avec une tronçonneuse et qui, aujourd'hui, crie victoire.
Aujourd'hui, c'est avec fierté et espoir que je vous annonce que nous avons passé l'épreuve du feu. Nous sortons du désert. La récession est terminée et le pays a enfin commencé à croître. Merci d'avoir fait confiance à ce gouvernement. Nous nous rapprochons chaque jour un peu plus du moment où l'inflation ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, nous avons un excédent budgétaire durable, sans défaut de paiement pour la première fois depuis 123 ans.
Derrière ce discours triomphal, quelle est la réalité? Des chiffres dingues, certes, mais pas forcément pour le meilleur. Regardez plutôt. D'abord, Milei avait promis de déchiqueter les comptes publics. Il a tenu parole. Un an après son arrivée, les dépenses publiques ont chuté de 33%. Pour obtenir le premier excédent budgétaire depuis plus de 15 ans, il a notamment supprimé 30 000 postes de fonctionnaires. Mais pour quel résultat? L'inflation est passée de 25% par mois à 2,7% en octobre dernier, un niveau proche des standards européens. Et pour couronner le tout, si je puis dire, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 5% en Argentine pour l'année à venir, pour 2025. À quel prix? Le pouvoir d'achat est actuellement au plus bas en Argentine. Le taux de pauvreté a grimpé à 53% au premier semestre de cette année contre 42% avant l'arrivée au pouvoir de Milei. 4 millions de pauvres supplémentaires, tout de même. Pauvreté qui touche particulièrement les moins de 30 ans et les retraités. D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui, en Argentine, le minimum retraite est en dessous du seuil de pauvreté.
Merci François Gapillan. Un exemple à suivre alors, l'Argentine?
Mais non, parce que d'abord, on n'a rien à voir avec l'Argentine. Y compris quand on dit les chiffres d'inflation sont des chiffres européens, c'est pas vrai. Nous, c'est 2% par an, pas 2,7% par mois. Et par ailleurs, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et mais il faut reprendre un petit peu de champ. Au début, Alain Duhamel disait « ça fait 50 ans ».
Mais là, c'est une potion libérale. Est-ce qu'il faut une potion libérale à la France ?
Attendez, je vais y venir. Ça fait 50 ans qu'on a des déficits publics parce que nous avons une préférence collective pour la dépense qui correspond aussi à certains modèles sociaux.
Alors,
les Français, ils sont...
Conscientes ou inconscientes ?
Je pense conscientes et inconscientes.
De gauche et de droite.
De gauche et de droite. Parce qu'on a connu des alternances de toutes sortes, la gauche, la droite, maintenant le centre. Mais oui, mais l'État-providence, c'est pas un mal. Vous savez, si vous voulez vous faire soigner, il vaut mieux être français qu'être américain ou être argentin.
Mais il y a les États-providence qui fonctionnent mieux que le nôtre.
Attendez, je vais y venir, parce que ça veut dire que cette idée de tronçonneuse, on n'en a pas besoin, c'est pas dans notre mentalité. En revanche, et c'est le deuxième message que je voulais faire passer, il faut savoir faire des économies intelligentes.
Oui.
Et pour le prochain pour le prochain projet de loi de finances, j'ai dit aller vers 5%, je le maintiens. Et il faut aussi peut-être changer un peu l'équilibre du précédent, où il y avait beaucoup d'impôts et peu d'économies.
Oui.
Je pense qu'il faut un peu moins d'impôts et il faut plus d'économies, d'économies intelligentes.
J'ai bien regardé ce que dans la dernière phase proposaient les différents groupes politiques, puisque sur ce sujet précis des réductions des dépenses, il y a eu beaucoup de discussions à l'Assemblée nationale. Et j'ai remarqué qu'il y avait à gauche une imagination fertile sur l'augmentation des impôts, En ce qui concerne les dépenses, la droite, qui théoriquement est plus vertueuse dans ce domaine, a fait des propositions honnêtement ridicules. Ridicules par leur faiblesse. C'est-à-dire que quand on voyait la liste de ceux qui proposaient, on se rendait bien compte que ça ne réduisait en rien les écarts. Autrement dit, la gauche n'était pas du tout sérieuse sur les impôts et la droite n'était pas du tout sérieuse sur les dépenses.
Et pourquoi ? Parce que c'est un tabou de réduire les dépenses.
Et vous trouvez au milieu.
Au milieu de ceux qui veulent
augmenter les impôts et au milieu de ceux qui veulent baisser les dépenses.
Je suis surtout à la Cour des comptes. Pas parlementaire.
En haut. Vous êtes premier président.
Oui, mais j'essaie de représenter une institution qui se veut une vigie des finances publiques pour les Français. Et ce que j'essaie de dire, c'est pas, je me place pas dans le triangle des Bermudes du Parlement. Je suis en train d'expliquer qu'il faudrait faire plus d'économies intelligentes.
Politiquement, c'est très compliqué. Même la droite n'arrive pas à faire des propositions.
C'est là où je veux répondre quand même à une chose sur Milei. Oui. C'est qu'au fond, il faut être réaliste. On a 30 mois jusqu'à la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron l'a rappelé. Pendant ces 30 mois, on va avoir une forme d'instabilité politique assez puissante.
Pendant 30 mois, personne ne sera courageux.
Alors, il faudra faire le mieux possible, mais il y a des limites.
Avec le courage.
Et en toute hypothèse, vous parlez de Milei, la question, c'est que les Français auront à le choisir lors d'une prochaine élection présidentielle. Les réformes structurelles nécessaires, car pour faire des économies fortes, il faut réformer les politiques publiques. C'est ça le problème. Elles ne seront possibles qu'avec une donne politique, pour le coup, parfaitement stable. Mais il faudra le faire. Et je pense que si personne ne veut le faire, c'est la réalité qui va l'imposer. La France, souvent, elle se réforme à la crise.
Comment s'y prendra la réalité ?
Écoutez, il y a des exemples, pour le coup, moi je suis pas trop quand même, je suis pas libertarien et je suis pas pour cette forme-là, on n'a pas besoin de... Il faut faire une chose que font nos partenaires européens, qu'ont fait les Canadiens, ça s'appelle des revues de dépenses. C'est-à-dire aller prendre une politique publique et se demander, je soulève le capot, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas.
Vous le faites à la Cour des comptes régulièrement.
Mais nous le faisons régulièrement.
Mais on ne tire pas beaucoup compte de vos rapports,
d'autres corps d'État. Alors, c'est pas si simple que ça. On les écoute, mais sur les finances publiques, ça, j'avoue que nous n'avons pas été suffisamment entendus. Mais
est-ce que c'est ce qu'on appelle une litote ?
Oui. Bon. Mais en tout cas, ces revues de dépenses, c'est ce qu'a fait le Canada dans les années 90. Ce qu'a fait la Suède, c'est ce qu'ont fait beaucoup de pays européens. C'est d'aller regarder politique par politique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce qui marche, on le garde. Il y a même des investissements à faire. Il y a des dépenses supplémentaires. Oui. La transition écologique, ça va nous coûter des dizaines de milliards d'euros.